bonjour et bienvenue. Bienvenue ce matin. Bienvenue aux plus âgés. Bienvenue aux plus jeunes. Les enfants sont presque à la maison, là, une bonne partie. Bienvenue à ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, ceux qui sont encore un petit peu plus loin pour écouter. Nous nous rassemblons ensemble pour écouter Dieu, pour le chanter, pour passer du temps ensemble, pour passer du temps avec Dieu, qui nous accueille chacun tel que nous sommes. Alors que nous puissions vivre ce culte dans la joie de la vie qu'il nous donne, et qu'on puisse se sentir à la maison, dans cette église, à la maison tous ensemble, comme si on était un peu en famille. Et en famille, il y a des fois des tensions, mais il y a aussi plein de joie. Et alors ce matin, je voulais commencer avec quelques annonces. Vous avez vu défiler pas mal de choses, donc regardez bien l'actu Mérin et les débuts de culte, les fins de culte quand ça défile, et puis les différents supports qu'ils peuvent avoir aussi. Je rappelle juste deux choses, alors on va essayer le colloque. Le colloque, ce sera l'Assemblée générale de l'Église, ça fonctionne comme ça, et ce sera vendredi 22 novembre à 19h30. Et puis, une autre date importante pour les parents, pour tout le monde et pour les enfants, ce sera le dimanche 15 décembre à 15h. Alors, juste pour clarifier, il n'y aura pas de culte le matin, puisque à 15h, on fera le culte de Noël avec la participation des enfants et puis un petit côté traditionnel et puis peut-être des surprises aussi. Voilà, je rappelle juste encore aussi qu'à la fin du culte, il y aura le repas canadien. Donc vous êtes tous bienvenus, même si vous avez oublié quelque chose. Je vois certains qui font un petit signe de la tête. Voilà, alors ça, c'est un quelques rappels des choses à venir, plus ou moins loin. Et puis, je voulais aussi revenir sur des choses vécues. Les enfants, mais pas que, ont eu quelques jours de vacances. Alors, il y a eu les mini-chefs. Je crois que ça a fini aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est fini. Ouais. Hier, d'accord. Ouais. Mais il y a aussi, ça c'était avec la Ligue, il y a eu aussi toute une semaine ici, bien animée dans l'église. C'était la grande semaine. Elle a transformé cette église en une maison un peu particulière, une sorte de ruche. Alors, ça devait être Roger qui devait venir faire cette annonce parce qu'il a participé à toute la semaine, mais voilà, les effets de la semaine, ça lui a un peu coupé la voix. Du coup, je fais à sa place. Et juste pour dire merci d'avoir laissé les locaux à disposition, toute l'équipe des Kids Game, Kids Genève remercie l'église, mais pour dire que voilà, ça a rassemblé 37 enfants de la région, et sur ces 37, il y en avait 11 d'ici, qui ont participé toute la semaine à des activités. Ça s'est super bien passé. C'était bien entre l'intérieur, l'extérieur, toutes les activités. Et puis, ils ont parlé de la maison. Et ça tombe bien parce que c'est aussi un petit peu le thème de notre culte, de cette maison qu'on peut vivre, faire, être ensemble et avec Dieu. Alors, cette idée de maison, j'en parlais tout à l'heure, il fait bon de se sentir à la maison, de se sentir chez soi. Enfin, je vous le souhaite. Même si des fois, il y a des choses qui gênent à la maison, hein, il y a des jouets pas rangés, ou alors c'est pas rangé comme on voudrait. Des fois, c'est des voisins bruyants, des colocataires un peu encombrants. Pour les enfants, ben, des fois, on manque un peu d'espace, il faut partager une chambre, il faut ranger. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent chez soi? Est-ce que c'est la sécurité, la tranquillité, le fait d'avoir son espace à soi, le fait de pouvoir mettre des rideaux, de pouvoir mettre des décorations au mur, Est-ce que c'est être entouré de sa famille? Un endroit où on peut être soi-même. Pas besoin de s'habiller, de faire trop de manières. On peut se gratter comme on l'entend. Et alors, comment est-ce que je me sens quand je suis à l'église? Ou avec d'autres chrétiens? Comment est-ce que je me sens quand je suis avec Dieu? Quel niveau de familiarité est-ce que je peux avoir ici, durant un culte, ou bien tous ces temps qu'on partage en communauté? C'est des questions qu'on peut se poser, et je vous souhaite de pouvoir vivre cela de manière justement dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité, et de manière paisible. Ce matin, on échange dans nos maisons, on échange nos pasteurs avec l'église de la Fraternelle à Nyon. C'est une autre église de la famille Frey. Donc Philippe s'y retrouve là-bas, on pense bien à lui. Et c'est David Rossé qui vient nous apporter la méditation, la prédication ici. Alors, sois le bienvenu et merci d'être là. Alors avant de poursuivre le culte avec un temps de chant, de louange, je vous invite à prier. Seigneur, tu nous accueilles ce matin, tel que nous sommes. Tu nous accueilles dans ta maison, ton temple. Et merci parce que tu fais de nous ta maison, toi, le Dieu qui a tout créé, ce qui est autour de nous, toi qui nous as créés à ton image. Que tu nous conduises, que tu nous guides, que tu nous aides à mieux comprendre qui tu es, à mieux comprendre qui nous sommes et combien tu nous aimes. Et que tu nous aides à mettre ça en œuvre, à mettre ça en action dans notre vie à chacun, dans notre vie communautaire, dans nos familles et tout autour de nous. Amen.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on veut proclamer qu'au-dessus de toutes nos joies, tous nos soucis, tous nos bonheurs et tous nos malheurs, nous avons une seule espérance. Tous, là, de toutes les générations que nous sommes. Celle d'un Dieu qui est devenu un homme pour mourir pour nos fautes. Et son nom est Jésus, Yeshua. Il est notre Dieu sauveur et il mérite qu'on chante pour lui de tout notre cœur. Alors, je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour chanter malgré nos voix du matin, avec tout notre cœur que nous avons un Dieu d'amour infiniment bon pour nous.
Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
Proclamez nos voix.
Nos voix unies à celles des anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Au temple unis à tous les anges déclare tu es le Dieu toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
Proclamez-le.
Nos voix unies à celles des anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul.
Nos voix.
à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Oh, je suis à toi. Oh, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi.
Durant ce prochain chant, j'aimerais vous inviter à méditer la manière dont Dieu est votre Dieu. Est-ce que vous pouvez proclamer que vous voulez le suivre toute votre vie, même quand vous avez l'impression qu'il n'est pas à vos côtés? Je vous invite à prendre ce chant. On va le méditer en le reprenant plusieurs fois. Et à vraiment méditer ça, comment Dieu est votre Dieu.
guérissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre jugé défense, tu souffris à la croix. Pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbre, tu es ressuscité. À jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit. Ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. À la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois.
Seigneur, je te remets les enfants et leurs moniteurs qui sont là ce matin. Je te prie de les garder dans leur groupe respectif, dans leur groupe tout court, et de poser ta main sur eux pour qu'ils puissent apprendre ta parole, que les moniteurs puissent faire germer des plantes de foi dans leur cœur. Je te remets aussi David qui va nous apporter le message ce matin. Ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur, qu'on puisse être attentif à ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Et les enfants, vous pouvez aller avec Rebecca et Laïs.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil chaleureux ce matin. Effectivement, je me sens comme à la maison. Merci pour vos paroles de bienvenue, vos sourires, c'est très sympathique. Comme a dit que ça faisait une année que j'étais venu ici, alors c'était sympa de me le rappeler. J'avais aucune idée du timing, mais effectivement, j'ai eu quelques petits problèmes pour retrouver l'église, mais je l'ai retrouvée parce que j'ai confondu avec l'église qui est à côté. Là, je me suis dit, mais il y a une église de réveil, une église évangélique, une église frère. Enfin bref, visiblement, tout le monde est un peu ensemble et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Effectivement, je m'appelle David Rosset, je suis pasteur à la Fraternelle. Je suis aussi ravi d'avoir des bonnes nouvelles du camp mini-chef de la Ligue, parce que je suis aussi assez impliqué dans cette magnifique œuvre. Alors bravo pour votre camp, je crois que c'était une grande réussite. J'ai encore mangé ce matin de la confiture à la banane que ma fille avait appris il y a 2 ans dans votre camp, donc c'est la classe. Allez au camp mini-chef et à tous les camps de la Ligue. Ce matin, je vais essayer un petit exercice un peu particulier parce que je suis dans une réflexion depuis quelques mois avec notre église, la Fraternelle, sur être une maison et qu'est-ce que ça signifie être une maison spirituelle. Et puis c'est un peu le thème qu'on va aborder ce matin. Être une maison spirituelle, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nos vies quotidiennes? Alors, je vais vous laisser un verset. Et puis si vous retenez que ce verset, alors j'aurai réussi mon entreprise de transmission de la parole. Laissez-vous bâtir, vous aussi et moi aussi, comme des pierres vivantes, pour construire une maison spirituelle. Et puis dans beaucoup de traductions, c'est mis un temple spirituel. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais les traductions, quand on veut être spirituel, on doit mettre des termes encore plus spirituels. Comme un temple, par exemple, ça fait beaucoup plus sérieux qu'une maison, vous êtes d'accord, hein. Mais par contre, quand on l'associe à nous, on n'y comprend rien. Parce qu'un temple, qu'est-ce que ça signifie? On sait peut-être qu'à côté, c'est un temple, ici, c'est peut-être une église, j'en sais rien. Mais pour nous, un temple spirituel, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, ça veut dire quelque chose de la manière dont on considère ce qui est spirituel. Ça doit être un peu compliqué, ou ça doit être un peu abstrait, ou bien ça doit être un peu en dehors de notre vie quotidienne. Alors que si on regarde dans le texte original, il est écrit en grec. Et puis en grec, c'est les termes de la vie quotidienne qui sont employés beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et puis je trouve ça très intéressant. Et là, c'est extrêmement clair. Nous devons être une maison spirituelle, comme je l'espère et j'en suis presque sûr, toutes et tous ici ce matin, nous avons une maison, nous savons ce que ça veut dire, même avec les enfants, visiblement ça a été le thème la dernière semaine, une maison spirituelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire une maison spirituelle? Peut-être qu'on a un autre verset qui nous vient en tête, c'est le verset qu'on trouve ici dans 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit-Saint? De nouveau, on insiste sur le temple. Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. Peut-être celui-là, il est plus connu que le verset de Pierre. Mais d'où ça vient tout ça? Ça vient d'un mouvement de Dieu qui est absolument unique dans l'histoire des hommes et dans notre histoire à nous. Puisque la parole, c'est-à-dire Jésus, est devenu un homme et il a habité parmi nous. Je lis ça dans le prologue de l'évangile de Jean, Jean au chapitre 1. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un fils unique plein du don de la vérité reçoit du Père. Cette parole, Jésus est venu habiter parmi nous. Et puis là, si on prend la traduction littérale, c'est très intéressant parce que la traduction littérale dit « cet homme, il a planté sa tente parmi nous ». Et cette tente, elle reprend tout ce que Dieu a voulu faire dans le passé pour nous à travers le tabernacle, c'est-à-dire cette présence de Dieu au milieu des hommes. Donc Dieu, dans un mouvement assez extraordinaire, mais peut-être auquel on est un peu trop habitué, il décide quand même de venir planter sa tente parmi les hommes. Il ne construit pas une maison, il y a cette idée de mobilité, je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin, mais moi qui aime bien le camping, j'aime beaucoup cette image. Il plante sa tente parmi nous, parmi les hommes. Et puis après, ça va encore plus loin, je lis au chapitre 14, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, et moi aussi, je l'espère, pour toutes et tous ici ce matin, vous le connaissez. Pourquoi ? Parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous, ou qu'il est en nous. Voyez la gradation des mouvements de Dieu envers nous. Ça commence par une tente dans un désert pour le peuple d'Israël. Cette tente devient un homme, d'une certaine façon, qui habite parmi nous. Et cette tente devient l'Esprit Saint qui demeure auprès de nous et qui sera même en nous. Est-ce qu'on croit à cela ? Que Dieu habite en nous. Si j'étais dans une black church, il y a tout le monde qui dirait « Amen, praise the Lord !» Mais là, c'est plus intérieur. C'est très bien parce que c'est intérieur. Ça parle de notre intériorité, que ce Saint-Esprit habite en nous. Et ça fait toute la différence. Alors, si on se fait un peu une image très concrète de notre maison intérieure, c'est-à-dire de notre vie quotidienne, voilà ce que ça peut donner. Alors, je ne suis pas un spécialiste des tableaux Excel, même si je suis économiste de formation, j'ai laissé ça très loin, mais j'ai quand même essayé d'en refaire un. Mais comme vous pouvez constater, je ne suis plus très au point parce que les légendes sont toutes petites là. Donc, vous ne pouvez pas lire ce qu'il en est, mais c'est très bien. Comme ça, je vais pouvoir vous poser des questions pour savoir à quoi correspondent ces tableaux de notre maison personnelle. Alors, les deux verts, vous pensez que c'est quoi ? Le vert clair, on commence par le vert clair. Là. Le grand camembert du vert clair. Si je dois découper ma vie de 24 heures, c'est une journée de ma vie, à quoi ça peut correspondre le vert clair ? Le sommeil, dormir. Alors, pour notre santé à toutes et tous, j'ai compté 8 heures de sommeil par nuit. C'est pas mal, hein, j'ai fait à peu près la moyenne. Ouais. Ensuite, le deuxième vert, vous pensez que c'est quoi ? Le travail, exactement. Et puis, comme moyenne, j'ai pris à peu près 45 heures par semaine, comme ça tout le monde est content. Puis c'est le temps de travail des pasteurs, donc voilà, je me suis mis comme norme. Ensuite, il y en a un peu qui sont de la même taille, c'est le violet et le bleu. Alors, le violet, vous pensez que c'est quoi ? Faire à manger, ouais, alors son mini-chef là qui ressort un peu. Alors, ça aurait pu, c'est presque ça. Téléphone, exactement. Alors, joli, j'aurais pas pensé que ça le fait. Alors, moi, que t'aies des très bons yeux puis que t'aies réussi à voir la légende, joli. Alors, c'est des excellents yeux. Le troisième, effectivement, c'est l'utilisation du téléphone portable. Et puis ça, j'ai pris la moyenne européenne que j'ai trouvée sur une source statistique Internet. Donc, on est à peu près à 3h30 par jour, en moyenne, au niveau européen, sur les téléphones. Il y a des petites nuances selon les pays. Évidemment, pour vous, ça ne vous concerne pas. Vous êtes à beaucoup moins, certainement. Mais au niveau des Européens, en tout cas, on est à 3h30 par jour. Donc, par semaine, ben, ça donne aussi des éléments qui sont significatifs. Effectivement, le bleu, après, c'est la popote, c'est tout ce qui est autour de la vie familiale, les temps de repas, les temps de lessive, tout ce qui concerne ce qu'on appellerait la vie à la maison. Donc ça, c'est le bleu. Ensuite, il y a encore le bleu clair. Vous pensez que c'est quoi, là, le bleu clair ? Les loisirs, exactement. Alors ça, j'ai compté 4 heures par jour le week-end, parce qu'on aime bien aller marcher dans le Jura ou je sais pas où. Et puis, une activité un soir par semaine, 2 heures par semaine. Donc, on est à peu près à 10 heures par semaine. Et puis, le petit orange, là, quand même, il fallait que je le mette. Hein. Vous pensez que c'est quoi ? J'ai pas compris plus fort ? L'Église. Or, j'ai fait beaucoup plus large. J'ai pris les temps spirituels, qui représentent à peu près 4,16% de notre vie quotidienne. Puis alors, attendez, qu'est-ce que j'ai pris de là-dedans ? Quand même, 7 heures par semaine de vie spirituelle. Ça veut dire 3 heures le dimanche matin et tous les dimanches, 20 minutes de méditation par jour et 2 heures de bénévolat par semaine. Alors ça, ça donne le orange. Donc ça, ça donne le orange que vous voyez là. Je ne sais pas trop ce que ça vous inspire, ces camemberts, mais je trouvais que ça donnait une idée concrète de notre maison spirituelle, puis peut-être le point de départ qui est le nôtre quand on a à peu près ça. On se rend bien compte qu'il y a une tension quand on parle de maison spirituelle et puis d'une autre tendance, exactement ce que j'ai fait, de vouloir segmenter tous les secteurs de notre vie. On a appelé spécialistes actuellement pour segmenter tous les secteurs de notre vie. Et puis en plus, après, surtout quand il y a le pasteur qui vient nous faire une prédication, on a un peu tous mauvaise conscience parce que le petit côté orange, on se dit, punaise, ça ne va pas du tout. On regarde nos pieds, puis on regarde le sol parce qu'on se dit, c'est quand même pas énorme hein, ce qu'on fait là, par rapport au téléphone et tout, vraiment ça ne va pas. C'est une de nos tensions parce que ce n'est pas la voie à suivre pour construire et se laisser construire notre maison spirituelle. C'est plutôt de se laisser infuser par l'Esprit Saint dans tous ces secteurs-là de notre vie. Et j'ai envie de dire, y compris la nuit. Si on regarde la révélation biblique, il y a énormément de choses qui se passent la nuit, ce qui se passe dans les songes, des paroles, des éléments qui sont transmis dans la présence aussi de Dieu, même pendant la nuit. Se laisser infuser et comprendre, non pas dans le but d'augmenter le camembert orange, ce n'est pas vraiment forcément ça le but de ma prédication, mais c'est de se dire que cet Esprit Saint qui habite en nous, il est vraiment avec nous dans tous les camemberts qui sont là devant nous ce matin. Il infuse, il influence, j'espère, tous les secteurs de notre vie à toutes et tous ici ce matin. Puis la deuxième remarque que je voudrais quand même vous faire, c'est celle des proportions. Effectivement, on peut être un peu étonné des proportions qui sont là dans ce camembert. Et puis si on prend au sérieux le fait qu'on est ce temple du Saint-Esprit, j'ai été interpellé par ces versets de la vie de Jésus qui sont ceux-ci. Les disciples et Jésus, ils arrivent à Jérusalem. Et Jésus entre dans le temple. Il se met à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renverse les tables des changeurs d'argent et les sièges des marchands de colombes. Il ne laisse personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et leur disait, les Écritures ne disent-elles pas, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Et je nous laisse cette question difficile. Quels sont, si je me considère comme étant la maison spirituelle, là où Dieu habite, quels sont les marchands du temple dans ma maison spirituelle? Qu'est-ce qui vient voler de l'espace à notre Dieu? Qu'est-ce qui vient mettre ses tables et puis prendre la place à la vie de prière? Qu'est-ce qui vient s'incruster? Peut-être à l'insu de mon plein gré, comme j'aime bien dire. Et puis là, ce mouvement de Jésus, il est salvateur. On vient de chanter que Dieu est notre sauveur. C'est un vrai mouvement qui sauve. Ce mouvement un peu choquant où il renverse les tables, où il chasse ces marchands du temple. Ben, je pense que ce mouvement-là, il est toujours d'actualité pour nous dans nos vies. Question difficile, quels sont les marchands du temple dans ma maison spirituelle? Je nous laisse peut-être une minute pour laisser descendre cette question. Je nous la laisse, cette question, parce que je pense qu'elle reste d'actualité au fur et à mesure de nos vies, de nos semaines. Et maintenant, on peut se poser la question, ben, comment est-ce que cette maison spirituelle, est-ce que je peux la construire? Puis là, on va retrouver le texte de 1 Pierre 2 que je vous invite à méditer maintenant avec moi. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Et notre verset clé, laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire une maison spirituelle. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, « Voici que je place en Sion, ou dans l'Église, une pierre d'angle. Je l'ai choisie, elle est précieuse. » Et cette magnifique promesse, « Et celui ou celle qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. » Cette pierre est d'une grande valeur pour vous et pour nous, les croyantes et les croyants. Mais pour les incroyants, comme le dit l'Écriture, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Et ailleurs, il est encore dit, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces personnes trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu, et c'est ce qui devait leur arriver. Comment faire pour devenir cette maison spirituelle que Dieu nous appelle à être? Ça commence par ces deux verbes, « laissez-vous bâtir ». Et je trouve là, c'est très intéressant parce que c'est un passif. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui dois entreprendre la construction de ma maison, mais c'est moi qui dois laisser l'Esprit-Saint construire ma maison. Puis là aussi, dans différentes traductions, c'est mal traduit. Ils ne traduisent pas ce passif. Puis ça veut aussi dire quelque chose sur notre manière de concevoir la foi, c'est-à-dire que c'est toujours ce côté un peu actif, et puis il faut y aller un peu à la Sisyphe style, et puis on doit toujours recommencer. Alors que je crois que la volonté de Dieu, dans cette perspective qu'il nous offre, c'est de nous habiter par sa présence, et que cette présence va nous faire grandir. Puis notre rôle, c'est de rester disponible à cette présence et de lui laisser tout l'espace, parce qu'on est très bien au courant qu'on n'aime pas laisser tous les espaces, on a besoin des fois de nos espaces à nous, puis même Dieu, il n'est pas toujours forcément le bienvenu dans chacune de nos pièces. Et là, il y a vraiment cette idée, premier truc d'une certaine façon, pour être une maison spirituelle, de se laisser bâtir par Dieu. Laissez-vous bâtir par Dieu. Ensuite, il y a cette idée de s'approcher de la pierre d'angle, de s'approcher de Jésus. Puis là, selon les indications que j'ai reçues dans l'oreillette de votre pasteur Philippe, il m'a dit que vous étiez dans une série sur le serment sur la montagne. C'est une manière extrêmement claire de s'approcher de cette pierre d'angle qui est Jésus. Puis on entre aussi, j'aime pas le dire trop tôt, mais on entre quand même gentiment dans le temps de Noël. Et ce temps de Noël, c'est une occasion pour moi assez unique dans notre vie de croyants et croyants de s'approcher de cette pierre d'angle de Jésus. Allez vous plonger dans les évangiles, méditez ces paroles du serment sur la montagne. Allez-y, approchez-vous de cette pierre d'angle, parce que c'est une manière de se laisser bâtir par l'Esprit-Saint qui vit en nous. Et puis, si on prend cette série sur le serment sur la montagne, je la trouve aussi intéressante, parce qu'on se rend compte que cette pierre d'angle, c'est aussi une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une pierre qui nous fait trébucher. Et puis, je crois qu'il faut qu'on l'admette aussi, pour nous, croyantes et croyants, que ce n'est pas si évident que ça d'entendre ces paroles de Jésus qui viennent nous prendre à rebrousse-poil. Alors admettons aussi, petit truc, que cette parole, elle peut nous faire trébucher. Que cette parole, elle n'est pas seulement là pour nous offrir que du baume sur le cœur, ça arrive aussi, mais parfois aussi cette pierre d'angle, elle nous fait trébucher. Il nous faut simplement l'admettre parce que sinon on cherche à minimiser la valeur et la vigueur des paroles de Jésus. Puis ça, c'est la dernière des choses à faire parce que ça nous dérange, parce que X bonnes raisons. Plutôt, allons-y sur cette voie-là d'admettre que cette pierre d'angle, elle peut nous construire, évidemment, mais elle peut aussi nous faire trébucher parce que y a de la résistance, il y a de l'incompréhension, il y a du mystère, il y a tout ce qu'on veut là derrière. Approchez-vous de cette pierre d'angle. Et finalement, cette construction, elle est en vue, je ne vais pas m'étendre là-dessus, d'une construction plus grande que nous représentons ce matin, cette communauté vivante que Dieu s'est créée. Cette communauté vivante que Dieu s'est créée, c'est toutes ces pierres vivantes que nous sommes, toutes et tous, et on apporte finalement chacun notre personnalité, chacun notre manière d'être, chacun notre maison spirituelle, non seulement le dimanche matin, mais de manière bien plus large, quand on considère l'Église, cette communauté de prêtres qui est active à travers le monde. Ça, c'est en vue d'eux, ça donne une perspective. Et finalement, et je vais terminer là-dessus, ce qui va faire aussi une transition pour le moment de Sainte-Cène, si nous pouvons vivre tout cela, si nous pouvons être conscients et expérimenter cette présence de Dieu en nous, cette réalité que nous sommes la maison de Dieu, je suis la maison de Dieu, c'est un peu mon souhait ce matin, que chacun puisse dire « je suis la maison de Dieu » puis prendre cette promesse avec lui ou elle. C'est parce qu'on a goûté combien le Seigneur est bon. Et puis goûter, je ne sais pas si on s'en rend compte, hein, mais c'est un geste qui est finalement assez intime. Hein. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on fait voir, ça laisse à une certaine distance, entendre aussi ce qu'on fait ce matin. Toucher, peut-être c'est déjà un peu plus compliqué parce que ça vient nous chercher dans qui nous sommes, mais goûter, ça parle directement à notre intériorité, à notre être intérieur. Il est vraiment question de ça quand on dit « nous sommes la maison de Dieu ». « Je suis une maison spirituelle », c'est parce que j'ai goûté combien le Seigneur est bon. Il y a vraiment un geste d'intériorisation extrêmement puissant qui nous est donné. Et ce geste, on peut le revivre en toute simplicité, chaque dimanche, je ne sais pas à quel rythme vous le faites, mais en tout cas de manière très régulière, où on peut goûter combien le Seigneur est bon. Et je vous invite à partager ce matin ce repas, ce pain, ce vin qui nous est proposé, en prenant conscience et en goûtant combien le Seigneur est bon, et en se rendant compte que nous sommes sa maison. Je suis sa maison. Il vit en moi et il me fait évoluer selon sa volonté. J'aime beaucoup de nouveau la simplicité de ces éléments. Hein. Un bout de pain, un peu de vin ou du jus de raisin, je ne sais pas ce que vous avez choisi, ce n'est pas la question. C'est des éléments de la vie de tous les jours, comme la maison, c'est des éléments de la vie de tous les jours. Et la puissance du Saint-Esprit vient habiter ces éléments simples de la vie de tous les jours. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle que Christ vient mettre dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, d'éloigné, c'est quelque chose d'intérieur qu'on peut prendre et goûter.
Je lis l'institution dans 1 Corinthiens 11. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce mouvement incroyable que tu as fait vers nous, d'envoyer ton Fils dans le monde pour planter ta tente dans notre monde. Et encore ce pas de plus, extrêmement mystérieux, extrêmement puissant, de l'envoi de ton Saint-Esprit en nous, dans nos cœurs. Merci parce que ce matin, tu nous donnes encore cette ouverture vers toi, de pouvoir goûter à ta présence, de pouvoir goûter combien tu es bon pour nous. Merci parce que nous pouvons le faire, nous toutes et tous, pierres vivantes, réunies ici ce matin à Mérin et en communion avec toutes les autres pierres vivantes, les millions et les milliards d'autres pierres vivantes qui sont disséminées à travers le monde et qui construisent ton Église. Alors viens cet Esprit dans nos cœurs, nous voulons te dire que nous voulons te faire toute la place. Viens habiter cette maison qui est la tienne, cette maison de nos vies. Amen.
Merci. On va distribuer la scène. On aura besoin de 3 personnes pour nous aider. Et comme d'habitude, dans les plateaux, au centre, c'est le jus de raisin, le vin autour. Et si vous voulez communier avec la coupe, faites simplement signe qu'on puisse vous l'amener. Et pendant ce temps-là, je vous invite à prier de manière intime dans votre cœur ou à haute voix, si vous le désirez.
Goûtez, vous voyez quand le Seigneur répond. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 3 dimanches sur 4 qu'on entend ce verset de 1 Pierre 2 ou Luc 34. Et je pense qu'on a un appel, justement. L'assistant, c'est très bien que tu l'aies encore dit ce matin, David, à demander à Dieu de venir se révéler dans nos vies, physiquement. Goûter et voyez. C'est pas simplement savoir, c'est goûter et voyez. Et je vous invite à prendre ce chant qui dit ébloui. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour du ciel. C'est pas simplement quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qui est physique. Et j'aimerais vous inviter à profiter de ce chant pour demander à Dieu de venir nous éblouir, de venir déranger cette pierre d'angle dans nos vies, pour qu'on puisse goûter sa bonté. Et je vous invite à vous lever ou rester assis, comme vous le désirez, pour chanter ce chant.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence.
Spirituel, on montre notre confiance à Dieu, on lui rend une partie de nos biens, même si tout est déjà entre ses mains. Et aussi un temps concret, pratique, pour le fonctionnement de l'Église, faire tourner les finances, permettre de faire un budget pour l'année prochaine. C'est justement au programme du colloque. Et c'est aussi un temps de liberté, où vous pouvez participer, ou pas, de la manière dont vous le souhaitez, sans avoir de compte à rendre à personne. Alors, pendant ce temps-là, on va chanter, je vous invite à vous lever pour ça, on va chanter Une seule Église.
Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un seul Père, qui pour nous s'est offert. Nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaît ce nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances. Que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant vivons dans l'unité. On verra que nous sommes saisis à l'amour qui nous unira. Non qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous sommes une seule Église.
Seigneur, nous voulons élever ton nom et permets que cet argent puisse y participer, y contribuer, qu'il soit bien utilisé pour ça et que tu nous accompagnes dans nos finances, que tu nous accompagnes dans tous les aspects de notre vie. Amen. On arrive au bout de ce culte. Merci à tous ceux qui ont participé pratiquement à ce culte. Merci à David en particulier, aux musiciens, tout le monde. Et avant de poursuivre les échanges, je vous rappelle que si vous désirez qu'on prie avec vous, pour vous, vous pouvez vous avancer sur le côté ici. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Avant de poursuivre avec les échanges autour du repas aussi, tout à l'heure, auxquels vous êtes tous et toutes bienvenus, je vous invite à être envoyés par ces quelques mots que je lis dans le psaume 34. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors de danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Alors que nous puissions vivre cela jour après jour, aujourd'hui, tout au long de nos semaines. Voilà, bon dimanche à chacun, bonne semaine et à bientôt.